Je me souviens.
Je me rappelle. Tu te souviens ?
Elle se rappelle.
Elle se souvient.
Il se rappelle.
Ça a été comme une lumière dans la nuit, un flash. Nous avons tous vécu un événement marquant qui a été un accélérateur de vie.
Je me souviens, je me rappelle.
Bonjour amis auditeurs et bienvenue. Aujourd'hui, je vous propose de retrouver Julie, qui se souvient d'un voyage pas comme les autres.
Bonjour Julie.
Bonjour.
Bonjour Julie, donc je vais vous demander de vous présenter rapidement.
Alors, j'ai 37 ans et je suis maman de deux jeunes filles de 15 et 12 ans.
Donc 37 ans, c'est très jeune Julie. Vous étiez encore plus jeune, vous aviez 19, 20 ans ?
20 ans.
Et qui étiez-vous à 20 ans ?
À 20 ans, j'étais une jeune fille qui avait arrêté les études tôt, parce que très indépendante. Je suis partie de chez mes parents, j'avais 17 ans et demi. Et je me suis lancée dans une vie un peu compliquée et je me plaignais beaucoup. C'était compliqué, il y avait trop de choses à penser, à faire, et la société était pour moi très compliquée.
Et alors, qu'est-ce qui s'est passé ?
Eh bien, un jour, mon papa, faut le présenter un peu, il m'a eu tard, il m'a eu à l'âge de 48 ans. Il avait 6 autres garçons devant moi.
Vous étiez une divine surprise, alors.
Sa petite princesse, la petite dernière, la dernière venue, était enfin une fille. Et mon papa est venu donc me voir avec mon compagnon de l'époque, le papa de mes enfants. Et il m'annonce qu'il va partir au Sénégal, il y allait très régulièrement en voiture, et qu'il part dans 3 semaines. Et ma vie était tellement un gros bazar pour moi que je me suis dit, papa, tu nous emmènes. Et il a dit chiche.
Votre père partait régulièrement en Afrique, hein, c'est ce que vous êtes en train de me dire.
Exactement, il partait régulièrement avec des véhicules qui... avec lesquels il emmenait du matériel médical, des vivres, des arbres fruitiers aussi, jusqu'au Sénégal. Et il revendait le véhicule, ce qui lui payait le voyage.
Ce qu'il amenait, c'était du matériel médical, hein, donc à destination des populations.
Exactement, oui. Il faisait partie d'une ONG qui s'appelait Handisable International, qui, elle, s'arrêtait en Mauritanie. Après, il a aussi fait partie d'autres ONG qui allaient jusqu'au Sénégal.
D'accord. Donc là, vous sortez de vos soucis quotidiens, vous embarquez avec votre père. Vous embarquez seul avec votre père ? Comment ça se passe ?
Non, on part avec cette association et on est donc un convoi de 7 véhicules. Donc au départ de Charente-Maritime, donc on est 7 véhicules qui partent en direction de l'Afrique.
Vous partez en direction de l'Afrique, donc avec différentes étapes je suppose.
Exactement, première étape on s'arrête en Espagne. Et en Espagne, mon père me dit quelque chose de très curieux, parce qu'on vient de se garer devant une supérette alimentaire, et il me dit on va faire le plein de gasoil. Alors, sur le coup, je ne comprends pas trop, parce qu'il n'y a pas de station. Et on rentre dans ce magasin, et il dit tu vas aller acheter des bouteilles de whisky, t'en prends pas mal, et puis moi, je vais aller acheter de la bière. Je dis d'accord, mais qu'est-ce qu'on va faire de tout ça ? Il dit on va revendre tout ça au Maroc, et ça va payer le gasoil jusqu'au Sénégal.
Ah, donc il y avait pas d'argent donc, pour permettre au convoi donc, d'aller donc, d'une façon autonome donc, jusqu'à destination, en fait. Alors, c'était une sorte d'auto... il se payait son voyage de cette façon-là.
Exactement, parce qu'il y avait... chacun finançait de ses propres moyens, à cette époque-là, l'aller. Et le retour se faisait en vendant les véhicules sur place.
Donc, il y avait un petit peu un côté gonflé dans cette aventure.
Oui, gonflé, et puis un petit peu un côté escroc, un petit peu un côté interdit, parce que non seulement on n'a pas le droit de vendre de l'alcool, de faire rentrer de l'alcool sur les pays du Maghreb, mais en plus, on n'a pas le droit non plus de vendre des véhicules qui ont plus de 5 ans.
Donc, alors, on va voir comment ça va se passer pour vous. Donc, vous embarquez, comment ça se passe ? Vous prenez le bateau pour l'Espagne, quoi ? Dites-moi.
C'est ça, on arrive...
Pour le Maroc ?
Oui, c'est ça. On arrive dans le sud de l'Espagne et on prend donc le ferry qui nous fait traverser donc d'Algeciras à Ceuta. Et là, c'est parti pour l'aventure. Et sur le bateau, j'ai un souvenir qui est marquant pour moi. C'est que du haut de mes 20 ans, je regarde d'un côté, je vois le continent africain, et je regarde de l'autre, je vois le continent européen, et je me dis que je suis toute petite.
Et les deux continents ont presque l'air de se toucher. Quelle impression ça vous fait, en plus du fait que vous vous sentez toute petite ?
Oui, c'est ça, c'est très proche, c'est très très proche. Oui, on a l'impression qu'ils pourraient se toucher, que si l'eau s'évaporait un peu, ben voilà, on serait sur le même continent.
Donc alors, vous avez eu un premier choc avec l'achat des boissons alcoolisées, donc vous arrivez en Afrique. Qu'est-ce qui se passe à votre arrivée à la frontière ?
Eh bien, on passe la douane, évidemment. Et mon père m'avait dit, toi, les bouteilles de whisky, tu vas les planquer comme il faut dans la voiture, mais on avait suffisamment de matériel et de bazar dans les véhicules qui étaient chargés à bloc pour pouvoir bien planquer tout ça. Donc on avait...
Pourquoi les planquer ?
Parce que c'est interdit de les faire rentrer, donc surtout qu'on en avait en grosse quantité, donc il fallait vraiment tout planquer. Sauf que lui, il n'a rien planqué du tout. Je me rappelle très bien l'avoir vu mettre la bière qui était donc dans des cagettes au pied du passager, donc il était tout seul dans le véhicule, et recouvert simplement d'une couverture. Et je lui ai dit, mais papa, ça ne va jamais passer. Il m'a dit, t'inquiète pas. Et effectivement, quand on est arrivé à la douane, le douanier a fait le tour du véhicule de mon père, qui était donc 3-4 véhicules devant moi. Et j'ai bel et bien vu le douanier soulever cette couverture, découvrir la bière, parler à mon père. Je me suis dit, il est foutu. Et là, le douanier, je le vois venir dans ma direction. Et effectivement, il vient jusqu'à ma fenêtre, il toque, donc j'ouvre. Et là, il me demande simplement, est-ce que c'est votre papa là-bas ? Et je lui dis, oui, c'est mon papa. Il dit, très bien, très bien. Et alors, je me suis dit, mais pendant 2 heures, on est tous passés à la douane, pas eu de souci particulier. Et pendant 2 heures jusqu'au prochain arrêt, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il n'a bien plus raconté à ce douanier pour passer sans problème. Et en fait, après, je lui dis, alors tu lui as dit quoi au douanier pour qu'il vienne me voir comme ça ? Il me dit, quand il a soulevé la couverture, je l'ai tout de suite arrêté en lui disant, tu dis pas à ma fille, je bois. Hein, tu dis pas à ma fille, je bois. Tu dis pas à ma fille, je bois. Et c'est passé comme ça. Et j'ai trouvé ça incroyable.
Donc votre père est un joueur.
C'est un grand comédien, oui. Et puis, oui. Il connaît bien la nature humaine. Et puis, je ne sais pas, il a une espèce d'aura qui fait que les gens sont en confiance avec lui. Donc il se pose pas trop de questions. Quand papa dit quelque chose, on le croit.
On le croit. Et donc, ça vous a peut-être appris à ne pas avoir peur, peut-être ? Dans certaines situations.
Mais c'est vrai que partir comme ça à l'aventure, ça aurait pu être effrayant, mais non, j'ai jamais eu peur. Avec mon père, j'ai jamais eu peur. Il avait un bateau, on sortait en mer quand tout le monde rentrait au port. Donc généralement, on se prenait une tempête parce qu'effectivement, les gens rentraient au port parce que le temps était mauvais. Et lui, c'est quand il a décidé, on sortait et il nous a toujours ramenés au port. Donc j'ai toujours eu confiance en lui.
Donc là, c'est pas au port que vous vous rendez, vous en venez du port et donc vous poursuivez votre itinéraire.
Et oui, alors après, donc, on s'est arrêté au Maroc quelques temps. Donc là, on rencontre la population marocaine, on vend l'alcool facilement.
Comment vous faites ?
Facilement, parce qu'en fait, quand on vient avec le véhicule, déjà on est repéré parce que nos véhicules sont immatriculés France. Et on se fait aborder beaucoup par les gens de là-bas pour tout un tas de raisons. Ils veulent de l'argent, ils veulent... Et il y en a qui cherchent l'alcool, qui savent qu'on est susceptible d'avoir emmené de l'alcool.
Donc, vous vendez l'alcool, vous obtenez du carburant et vous poursuivez.
Et on poursuit notre route. Donc, jusqu'en Mauritanie. Donc, là, c'est aussi la découverte du Sahara. C'est une immensité, c'est merveilleux. Là aussi, je me suis sentie toute petite. On est face à des immensités. Le désert n'est pas partout pareil. Il y a des fois, c'est des dunes. Des fois, c'est des déserts de pierre très enrochés. Et tout va bien jusqu'à Nouakchott, où on est en convoi de 7 véhicules. Et puis après, on va se séparer de ce convoi et on va continuer notre route à 2 véhicules. Donc mon père le sien, moi et mon ex-mari le nôtre. Et là, c'est l'aventure qui prend encore plus d'ampleur, parce qu'on reprend un bout de désert et on se retrouve à être en fait avec une seule bouteille d'eau pour deux voitures, parce que bah, nous, on est jeunes et bêtes et on n'a rien prévu. Mon père,
votre père n'est pas vieux, il n'est pas jeune quand même, il est un petit peu plus vieux que vous.
Oui, bah, il a prévu pour lui, mais bon, il n'a pas imaginé qu'il fallait qu'il prévoie pour nous. Enfin, et je me rappelle que quand on s'est arrêté, que je lui ai dit que j'avais soif, qu'on n'avait pas d'eau, il m'a dit mais comment ça vous avez pas d'eau? Puis après il m'a tendu sa bouteille d'eau, elle était bouillante, et je lui ai dit mais je peux pas boire ça, c'est chaud. Et il me dit mais si, tu fais comme si c'était du thé, ferme tes yeux et fais comme si c'était du thé, mais il faut boire. Et finalement ça a été c'était des épreuves, parce qu'en même temps, je me disais, je vais mourir, mais en même temps, c'était merveilleux, parce qu'on ne s'est pas tellement posé de questions avec mon ex-mari quand on est parti. On était jeunes, et puis on s'est dit, on y va, tête brûlée. Et finalement, on s'est rendu compte de plein de choses. On a rencontré énormément de gens.
Oui, alors donc, vous avez soif, presque, donc vous allez au bout,
oui.
à vos limites, puisque donc avec très peu d'eau. Vous arrivez donc à bon port, malgré tout.
On arrive à bon port et là, on arrive donc à la frontière du Sénégal. Et c'est donc le douanier qui nous accueille. Et avant de faire aucun contrôle, cet homme a vu arriver deux véhicules, dont deux jeunes. Et la première chose qu'il nous a dit, c'est « vous ». Vous garez les véhicules et vous venez avec moi parce que, avant toute chose, il faut manger. Il venait de se préparer un plat avec du poisson et du riz. Et la première chose qu'il a fait, c'était le partager avec nous parce qu'il voyait qu'on était au bout du rouleau, je pense. Là, j'ai pris une grosse claque d'humanité.
Qui vous est resté ?
Oui.
Et donc, cette claque d'humanité, elle va se poursuivre pendant votre voyage donc au Sénégal ?
Tout au long du voyage, on a découvert des gens qui avaient très peu, mais qui donnaient tout, qui étaient prêts au partage, et puis qui étaient non seulement prêts au partage, mais qui en plus étaient attentifs à l'autre, à ce qui se passait, à l'état de l'autre. Et finalement, du haut de nos 19-20 ans... quand on est rentré de ce voyage, on n'était plus les mêmes, parce qu'on était partis en se plaignant de nos petits soucis, de ce qui se passait mal chez nous. Et on s'est rendu compte que là-bas, avec très peu, ils faisaient énormément. Et ils faisaient énormément aussi pour les autres, pour le bien-être collectif.
D'accord, donc vous êtes sorti de votre personne, en fait.
Oui, je pense que ça m'a fait grandir.
Alors, ce voyage se poursuit, vous vendez, vous donnez le matériel ?
C'est ça.
Et vous vendez la voiture, comment ça se passe alors ?
Alors, on a eu beaucoup, beaucoup de mal à vendre cette voiture, donc au Sénégal, c'était impossible. Alors déjà, c'était illégal parce qu'on ne vend pas un véhicule qui a plus de 5 ans, ni au Sénégal, ni en Mauritanie d'ailleurs. Mais en plus, c'était une voiture rouge. Et la couleur leur plaisait pas du tout. Enfin, c'était pas une couleur. C'était une couleur un peu péjorative, chargée d'ondes négatives. Donc, c'était pour eux compliqué d'acheter un véhicule de couleur rouge. Donc, on est remonté en Mauritanie parce qu'on n'avait plus le choix. Il fallait qu'on remonte. On n'avait plus d'argent. Et pour pouvoir rentrer à la maison, il fallait vendre le véhicule. En remontant en Mauritanie, mon père a eu une panne. Je me souviens, il a juste une petite durite, mais quand on est au milieu de nulle part et qu'il y a une durite qui lâche, c'est compliqué. Et il m'avait envoyé dans le village voisin chercher un petit bout de tuyau d'arrosage et deux serflex. Et on a réparé comme ça sa voiture. Enfin, moi, j'étais épatée. Je me dis, mais tout est possible. Et finalement, on a réussi à arriver à Nouakchott, en Mauritanie, et c'est là qu'on a réussi à vendre les véhicules.
Il était temps ?
Il était temps. Je me rappelle que lors de cette panne, on s'était partagé une vache qui rit en trois, donc autant vous dire qu'on avait faim quand même, et qu'on était un petit peu au bout de nos moyens, donc il était temps qu'on les vende, et ça a été aussi une grande expérience que de vendre ces véhicules, et donc de repartir en avion, parce que comme c'est interdit de les vendre, il fallait qu'on ait une escorte à l'aéroport, quelqu'un qui nous escorte, donc qu'on avait chèrement payé, qui lui était en lien avec les douaniers, donc qui nous faisait passer pour qu'on puisse sortir du territoire alors qu'on avait signé des papiers comme quoi on ne vendrait pas le véhicule. Donc c'était toute une aventure. En plus, il y avait des touristes donc, qui nous voyaient passer devant tout le monde. Et puis je disais, mais ils doivent croire qu'on est riches. Alors que pas du tout, on venait juste de réussir à vendre cette voiture pour pouvoir rentrer chez nous. Ça nous a payé simplement le billet retour hein, à la maison. Mais c'était merveilleux. Et puis c'était une sacrée expérience. On est revenu, comme je vous disais tout à l'heure, on n'était pas les mêmes.
Donc une vie qui s'est construite au jour le jour ?
C'est ça, c'était l'aventure. C'était l'aventure du début à la fin, parce qu'on ne savait pas de quoi demain serait fait, comment on allait manger, où est-ce qu'on allait se déplacer. Alors, on avait de la chance. Enfin, mon père avait des connaissances au Sénégal, donc on avait un logement. Et même les endroits où on n'avait pas de logement, on a été accueillis chez l'habitant. Donc,
Oui, vous avez été accueillis chez l'habitant. Quelle philosophie de la vie, ça ? Ça vous a inspiré aujourd'hui ? Ça vous inspire aujourd'hui ?
Ben, moi, je me dis, je me répète souvent quand j'ai des petits soucis. Hein, des fois, c'est pas facile à gérer. Hein, on n'a pas tous des soucis qui nous arrivent. Et je me dis souvent, j'essaye de me le répéter un peu comme un mantra, que c'est pas si grave. Qu'il y a des choses tellement plus graves. Et qu'en fait, on est toujours plus fort à plusieurs et qu'il faut pas, il faut composer avec ce qu'il y a autour de nous et avec les autres aussi.
Bien, ce sera le mot de la fin. Je vous remercie beaucoup et je vous dis à très bientôt. À très bientôt, amis auditeurs. Vous avez peut-être un mot à rajouter.
Eh bien, c'est moi qui vous remercie pour l'invitation. Au revoir.